Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Nous avons vu des blessés à la tête et au visage, mais pas de gros dégâts pour l'instant. Le plus dur maintenant va être d'évacuer cette place de la République où des centaines de manifestants sont toujours rassemblés.
Merci beaucoup Yann Gallic en direct de la place de la République à Paris pour France Inter, Paris et sa région où la préfecture de police annonce 189 interpellations et plus de 17 000 contrôles préventifs aujourd'hui. Quelques centaines de gilets jaunes ont aussi manifesté en région ce samedi, 250 à Nantes, 150 à 200 à Lyon, mobilisation à Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand et des tensions dans le cortège toulousain. La France doit-elle juger sur son sol ses ressortissants partis faire le djihad et détenus en Syrie et en Irak alors que la question divise? Le Kosovo, lui, vient de rapatrier 110 ressortissants de Syrie. Une opération inédite par son ampleur en Europe. L'avion a atterri cette nuit dans la capitale kosovare. À son bord notamment, 4 hommes soupçonnés d'avoir combattu dans les rangs du groupe État islamique. Audrey Tison.
À peine arrivés à l'aéroport de Pristina, ces hommes ont été inculpés pour participation à des conflits à l'étranger. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Les autorités estiment qu'en tout, 300 Kosovars sont allés combattre dans les rangs de Daesh, en Syrie ou en Irak. Le plus gros contingent européen rapporté à la population. 70 hommes y auraient perdu la vie, 120 en sont déjà revenus. Cette nuit, dans cet avion en provenance de Syrie, se trouvaient également 32 femmes, des épouses de djihadistes et 74 enfants. Ils ont subi de graves traumatisme d'après les services de santé qui les ont pris en charge pour des examens. Les civils méritent une réhabilitation et une vie paisible loin des conflits, a déclaré le ministre kosovar de la Justice. Ce rapatriement d'ampleur a immédiatement été salué par les États-Unis par la voix de son ambassade. C'est un exemple important et à suivre, dit le communiqué. La France est en droit de se sentir visée.
Peut-être un tournant au Soudan. Des pourparlers vont se tenir à partir de 20h tout à l'heure entre les dirigeants militaires au pouvoir depuis le 11 avril et les figures de la contestation qui réclament toujours un gouvernement civil de transition. C'est fait. Égalité, c'est le mot de la soirée en tennis. Égalité France-Roumanie en Fed Cup. Jean-Pierre Blimeau, vous êtes en direct de la Kind Arena de Rouen. On a eu très chaud après la défaite tout à l'heure de Kristina Mladenovic. Mais Caroline Garcia a remporté il y a quelques minutes maintenant le deuxième simple et ça fait donc un partout.
Et elle s'est imposée en deux manches, hein, 6-3, 6-3 avec beaucoup d'autorité, même si au début de la deuxième manche, la Française a été mise un petit peu plus en difficulté par son adversaire roumaine, Mihaela Buzărnescu, qui avait élevé son niveau de jeu. Mais Caroline Garcia, qui avait beaucoup de responsabilités, c'est vrai, a complètement assumé son rôle de numéro 1 française. Elle était classée, elle est toujours classée 21e joueuse mondiale. Son adversaire était à la 30e position, expérimentée, 30 ans, gauchère, pas facile à manier, mais finalement, Caroline Garcia a réussi donc à égaliser à un point partout. Puisque, vous l'avez dit, lors de la première rencontre de la journée, Simona Halep, numéro 2 mondiale, tenante du titre de Roland-Garros, elle l'avait gagné à Roland-Garros en 2018, n'a fait qu'une bouchée de Kristina Mladenovic, la nordiste, battue sèchement 6-3, 6-1, qui a pourtant résisté au début de la partie, puisque les deux joueuses se sont longtemps tenues à 3 jeux partout lors de la première manche. Mais ensuite, eh bien, Simona Halep a fait parler la poudre et finalement s'est imposée. Demain, il y aura deux nouveaux simples et on commencera par Caroline Garcia contre Simona Halep, le match des numéros 1.
Jean-Pierre Blimeau en direct de Rouen pour France Inter et dans l'autre demi-finale de cette Fed Cup, le Bélarus et l'Australie en sont à un partout également. Et puis pas de Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Monte Carlo. L'Espagnol vient de se faire sortir par l'Italien Fabio Fognini, 13e mondial. L'un vise le maintien, l'autre la Ligue des Champions. Guingamp reçoit Marseille en ce moment, 33e journée de Ligue 1 de football. Et à la mi-temps, c'est l'OM qui mène 2-0. C'est le week-end le plus chargé sur les routes de France. Au printemps, le week-end de Pâques, toutes les zones sont concernées. Ce soir, Armel Balagog, ça coince toujours en direction des plages, mais ça va mieux.
Oui, ça va beaucoup mieux, notamment sur la 13 en arrivant à Rouen depuis Paris. Il y a encore un petit ralentissement à signaler, un autre sur l'échangeur de Beuzeville dans le sens est-ouest. Sur la 11 également, les abords de la ville du Mans sont compliqués dans le sens ouest-est. Et puis la principale difficulté qui reste à cette heure-ci, c'est l'autoroute A7. La circulation s'est bien fluidifiée, mais il reste un embouteillage à hauteur de Montélimar dans le sens nord-sud en direction d'Orange.
Armel Balagog du PC Mobilité de Radio France. La météo.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Et c'est avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Les températures vont rester confortables tout au long du week-end, partout stationnaires demain, donc plus élevées au nord qu'au sud. Et lundi, les valeurs des régions méridionales vont rattraper celles de la partie nord. avec demain ciel plus mitigé, parfois accompagné d'ondées orageuses sur les régions situées entre la vallée de la Loire et les Pyrénées. Ailleurs, poursuite du temps sec et toujours plus dégagé dans la moitié nord. Lundi, c'est autour de la Méditerranée que le risque de pluie sera le plus marqué. Dans le quart sud-ouest, les ondées seront de plus en plus rares. Et ailleurs, poursuite du beau temps. On notera pour dimanche et lundi un vent d'est très turbulent en Méditerranée, prolongé par un vent d'autant sensible.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Mardi soir, à partir de 21h,
trois artistes en concert pour vous depuis la salle Grand Contrôle à Paris.
Rebecca Manzoni.
Des promesses confirmées du hip-hop anglais, Loyal Carner et Little Sims. Elle et lui joueront en live des extraits de leur nouvel album, Columbine, duo rennais, représentera le rap français dans cette triple affiche hip-hop. Columbine, Little Sims et Loyal Carner en concert, c'est à vivre sur France Inter mardi à partir de 21h.
Un jour, le cœur de mamie a commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de bien respirer pendant la nuit. Il lui faisait gonfler ses pieds et elle ne pouvait même plus mettre ses chaussures. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que...
Tu parles toute seule, ma chérie.
Viens, on va faire des crêpes.
Parce que j'adore les crêpes de mamie.
Insuffisance cardiaque. Remettez votre vie en mouvement. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Plus d'informations sur suitoncoeur.fr, un site de Novartis.
France Inter aime...
L'ultime saison de Game of Thrones. Diffusée en simultané avec les États-Unis sur OCS.
They're coming.
La grande bataille arrive.
I promise to fight for the living.
La rédemption est-elle encore possible?
I intend to keep that promise.
Qui s'emparera du trône de fer? Retrouvez le nouvel épisode de Game of Thrones sur OCS dans la nuit de dimanche à lundi, dès 3h du matin. L'ultime saison de Game of Thrones sur OCS, en partenariat avec France Inter.
Très bonne soirée sur France Inter, 18h09 et direction le studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Émission en direct et en public, Guillaume Gallienne rend hommage ce soir à Notre-Dame.
Comment s'appelle le sonneur de Notre-Dame ?
Quasimodo, Majesté. Le peuple l'appelle aussi le bossu.
Quasimodo ? Voilà un nom étrange.
Mais d'où sort-elle, cette Esmeralda ?
D'Égypte. Elle ose parfois venir danser sur le parvis. J'ai demandé qu'on la chasse, mais vainement.
Vas-y !
La cathédrale est un lieu de refuge. Toute justice humaine expire sur le seuil.
Ça peut pas faire de mal.
Le droit d'asile ! Pensez que de nos jours, une païenne, une créature du diable, peut se promener sur le toit de la maison de Dieu.
Merci, Quasimodo.
Vous serez-il bien ici avec moi?
Pauvre Quasimodo. Tu crois peut-être qu'on va rester ensemble ici toute ma vie?
Ils sont mauvais en bas.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre, par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Publié en 1831, le célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, voit sa triste prophétie se réaliser. Depuis lundi, l'émotion ne faiblit pas devant ce terrible événement qui nous rappelle la vanité des choses, des hommes comme des monuments que l'on croyait invincibles. Écrivain de génie et défenseur des grandes causes politiques, Victor Hugo est monté à la tribune pour y réclamer, je cite, « une loi pour les cathédrales, une loi pour les plus grands produits de l'intelligence, une loi pour l'histoire, une loi pour l'irréparable qu'on détruit ». Ce soir, nous consacrons une émission spéciale à ces colosses aux pieds d'argile, ces chefs-d'œuvre d'architecture, témoins silencieux de la légende des siècles. Nous y croiserons des poètes, des artistes, des romanciers, des dramaturges qui, au tournant du 19e et du 20e siècle, ont tous, avec leur talent, célébré l'ouvrage des bâtisseurs anonymes du passé. Et puisque c'est lui qui m'a fait découvrir et Notre-Dame de Paris et la plupart de ses auteurs, j'ose ici dédier cette émission à la mémoire de mon père Jean-Claude Gallienne. De Hugo à Claudel, en passant par Merval, Verlaine, Chateaubriand, Huysmans, Proust, Rodin et Péguy, je vous invite à un voyage dans l'imaginaire symbolique des cathédrales. Un itinéraire amoureux qui nous conduira de Paris à Reims, de Paris à Chartres. Bienvenue au Studio 104, cet écrin consacré à la musique. Et ce soir, à la musique des grands auteurs. Restons dans l'émotion de l'incendie qui nous a tous bouleversés. Écoutons une autre prophétie sous la plume d'un contemporain de Victor Hugo, le poète romantique Gérard de Nerval, publié en 1853, le poème s'intitule « Notre-Dame de Paris ». Il résonne aujourd'hui comme une oraison funèbre. « Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être, enterrée cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher, comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde tordera ses nerfs de fer et puis d'une dent sourde rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveurs, et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. » Vingt ans plus tard, un poète maudit rêve de rejoindre les bâtisseurs des siècles passés. Nous sommes en 1873, condamné à 2 ans de prison pour avoir tiré au revolver sur son amant Arthur Rimbaud. Paul Verlaine renonce à son passé tumultueux et recouvre la foi. Il rédige les premiers poèmes d'un recueil intitulé « Sagesse ». Non, il fut gallican ce siècle et janséniste. C'est vers le Moyen-Âge énorme et délicat qu'il faudrait que mon cœur en panne naviguât, loin de nos jours d'esprit charnel et de chair triste. Roi, politicien, moine, artisan, chimiste, architecte, soldat, médecin, avocat, quel temps, oui, que mon cœur naufragé rembarqua pour toute cette force ardente, souple, artiste. Et là que j'eusse part, quelconque, chez les rois, ou bien ailleurs, n'importe, à la chose vitale, et que je fusse un saint, acte bon, pensée droit. Haute théologie et solide morale, guidée par la folie unique de la croix, sur tes ailes de pierre, ô folle cathédrale. restons dans le registre de la métaphore. Un demi-siècle plus tard, un grand écrivain signe une œuvre monumentale. Il s'agit de Marcel Proust. Ouvrons Le Temps Retrouvé, le dernier volume de La Recherche, publié en 1927 à titre posthume. De retour chez Gilbert de Saint-Loup, qui fut son premier amour, le narrateur fait la connaissance de sa fille, une demoiselle de 16 ans, qui lui montre combien le temps a passé et qu'il lui faut tenter de le retenir par l'écriture. L'âme de ce guermante s'était évanouie, mais la charmante tête aux yeux perçants de l'oiseau envolé était venue se poser sur les épaules de Mademoiselle de Saint-Loup, ce qui faisait longuement rêver. Je la trouvais bien belle, pleine encore d'espérance, riante, formée des années même que j'avais perdues. Elle ressemblait à ma jeunesse. Cette idée de temps avait un dernier prix pour moi. Elle était un aiguillon. Elle me disait qu'il était temps de commencer. Si je voulais atteindre ce que j'avais quelquefois senti au cours de ma vie dans de brefs éclairs du côté de Guermantes, dans mes promenades en voiture avec Madame de Villeparisis, et qui m'avait fait considérer la vie comme digne d'être vécue. Combien me le semblait-elle davantage maintenant qu'elle me semblait pouvoir être éclaircie, ramenée au vrai de ce qu'elle était, en somme, réalisée dans un livre. Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je. Quel labeur devant lui. Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés et les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons, car cet écrivain devrait préparer son livre minutieusement avec de perpétuels regroupements de forces, comme pour une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le conquérir comme une amitié, le créer comme un monde. Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'être esquissées et qui ne seront sans doute jamais finies à cause de l'ampleur même du plan de l'architecte. Combien de grandes cathédrales restent inachevées? Longtemps, un tel livre, on le nourrit, on le fortifie, ses parties faibles, on le préserve, mais ensuite c'est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, la protège contre les rumeurs et quelque peu contre l'oubli. Mais, pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, je pensais à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants comme ceux qu'on tendait à un acheteur, l'opticien de Combray, mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. Et changeant de comparaison, selon que je me représentais mieux et plus matériellement la besogne à laquelle je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, je travaillerais à mon œuvre, regardée par Françoise, comme tous les êtres sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos tâches, je travaillerai auprès d'elle, et presque comme elle, car épinglant de ci de là un feuillet supplémentaire, je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe.
Si l'historien Émile Malle. Si belle, c'était sans doute parce qu'elle était dédiée à la Vierge, mais c'était aussi parce qu'elle était la cathédrale du Sacre. Cette façade était si magnifique qu'il était inutile de la décorer au grand jour et qu'elle était toujours prête à recevoir les rois. Cette façade de Reims était une des beautés du monde. Le contraste était violent pour qui la revoyait à la fin de la guerre. Dans cette ville en ruine, inhabitée, silencieuse, la cathédrale apparaissait comme un fantôme d'église au milieu d'un fantôme de ville.
Reprenons notre voyage au temps des cathédrales en compagnie d'un grand artiste. En 1875, le sculpteur Auguste Rodin a 35 ans et n'a pas encore réalisé ses chefs-d'œuvre. De retour d'Italie, il visite les cathédrales les plus célèbres de France. En 1914, 3 ans avant la mort de l'artiste, son ami et secrétaire Charles Maurice publie ses notes de voyage. Dans son introduction, l'écrivain évoque avec lyrisme ses édifices. Il y a plusieurs cathédrales. Il y a plusieurs points de vue. La cathédrale est un lieu religieux, un lieu social, un lieu artistique, et bien que cette trinité ne soit jamais divisée, on ne saurait la rendre d'un mot. Pour comprendre les cathédrales, ne faut-il pas composer dans notre esprit une immense cathédrale unique, faite de toutes les cathédrales? L'historien Émile Malle les connaît bien. La cathédrale de Chartres est la pensée même du Moyen-Âge devenue visible. Ces 10 000 personnages peints ou sculptés font un ensemble unique en Europe. Amiens est une cathédrale messianique, prophétique. Les prophètes de la façade, jetés en avant des contreforts comme des sentinelles, observent l'avenir. Notre-Dame de Paris est l'église de la Vierge. 4 portails sur 10 lui sont consacrés. Elle occupe le milieu de 2 des grandes roses peintes. Elle est le centre des choses. Reims est la cathédrale nationale. Les autres sont catholiques, c'est-à-dire universelles. Elle seule est française. Le baptême de Clovis emplit le haut du pignon. Les rois de France sont peints sur les vitraux de la nef. Bourges célèbre les vertus des saints. Ses vitraux illustrent la légende dorée. En vérité, ne dirait-on pas la composition de quelques symphonies énormes, savamment ordonnées pour l'esprit et pour les yeux de quelques surhumains spectateurs? La cathédrale gothique repousse les murs, elle les évide, une sorte d'ivresse la saisit, la cathédrale s'achève dans le vent, dit admirablement M. Paul Claudel, la cathédrale s'est envolée.
Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts. Un beau pré de vastes cales, des haubans et albâtres. Prenez une cathédrale, haute en ciel et large au ventre, une cathédrale à tendre de clin foc et de grand voile. Prenez une cathédrale de Picardie ou de Flandre, une cathédrale à vendre par des prêtres sans étoiles. Cette cathédrale en pierre qui sera des bons dieux risés, traînez-la à travers Paris jusqu'où vient fleurir la mer. Hissez la toile en riant et filez sur l'Angleterre. L'Angleterre est douce à voir du haut d'une cathédrale, même si le thé fait pleuvoir, quelque ennui sur les escales. Les cornouailles sont à prendre quand elles accouchent du jour et qu'on flotte entre le tendre et l'amour. Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau pré de vastes cales, mais ne vous réveillez pas. Putain, les Antilles sont belles, elles vous croquent sous la dent. On se coucherait bien sur elles, mais repartez de l'avant. Car toute cloche en branle-bas, votre cathédrale sous voile transpercera le canal de Panama. Prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois, partez cueillir les étoiles, mais ne vous réveillez pas. Prenez une cathédrale, hissez le petit pavois et faites chanter les voiles, mais ne vous réveillez pas. Prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois, partez pêcher les étoiles, mais ne vous réveillez pas. Cette cathédrale en pierre, traînez-la à travers bois, jusqu'où vient fleurir la mer. Ne vous réveillez pas. Mais ne vous réveillez pas.
Vous avez reconnu bien sûr Jacques Brel. Écoutons à présent l'acte de foi que Rodin prononce à l'égard des cathédrales. L'artiste pose sur elle son regard de sculpteur, amoureux des pierres. Avant de disparaître moi-même, je veux du moins avoir dit mon admiration pour elles. Je veux leur payer ma dette de gratitude, moi qui leur dois tant de bonheur. Je veux célébrer ces pierres, si tendrement amenées au chef-d'œuvre par d'humbles et savants artisans, ces moulures amoureusement modelées comme des lèvres de femmes, ces séjours des belles ombres où la douceur sommeille dans la force, ces nervures fines et puissantes qui jaillissent vers la voûte et s'y inclinent sur l'intersection d'une fleur, ces rosaces des vitraux dont l'appareil est pris au soleil couchant ou à l'aube. Pour comprendre les cathédrales, il suffit d'être sensible au langage pathétique de ces lignes gonflées d'ombre et renforcées par la forme dégradée des contreforts. Pour comprendre ces lignes tendrement modelées, suivies et caressées, il faut avoir la chance d'être amoureux. Il est impossible qu'on ne sente pas la magie, la vertu de toute cette splendeur et quelle réserve de force et de gloire y pourrait trouver le nouveau monde. Qui veut venir avec moi? Ce n'est pas en Italie que je voyage ni ailleurs. Pour moi, pour ma vision présente, c'est le ciel qui est le principal paysage. Venez, étudions. Venez recevoir de ceux qui ne sont plus, mais qui nous ont laissé de si magnifiques témoignages de leur âme, la vraie vie. André Malraux.
La cathédrale soumet toutes les formes de la terre aux siennes, comme Dieu annexe les fidèles à travers les saints. Si réalistes qu'on les prétende, les figures gothiques qui ne sont plus sacrées sont toujours religieuses. Je ne veux pas seulement parler de l'architecture dont l'action fut évidente, et du surnaturel qu'apportait la cathédrale lorsqu'elle dominait la ville, qu'apportait aussi l'espace infini de ses perspectives et la lumière de ses vitraux. Le peuple des 8000 figures de Chartres aura crié la gloire du Christ à tous les moineaux des champs Beauceron. La nef de la cathédrale sera devenue le cœur du monde parce que la cathédrale en sera devenue le miroir.
Retrouvons Rodin, qui visite la cathédrale de Reims de nuit. Voici la description presque fantastique que l'artiste fait de l'édifice berceau des rois, fondé sur l'emplacement de grottes ancestrales. Elle est là, immobile, muette. Je ne la vois pas, nuit noire. Mes yeux s'habituent, je distingue un peu, et c'est le grand squelette de toute la France du Moyen-Âge qui m'apparaît. Et c'est une conscience. Nous ne pouvons pas lui échapper. C'est la voix du passé. Vue de trois quarts, la cathédrale de Reims évoque une grande figure de femme agenouillée en prière. D'où je suis, je vois le chevet de l'abside. Je ne le vois qu'à travers un rideau de vieux arbres dénudés par l'hiver. La profusion des arcs à trois étages en perspective fait penser à Pompéi. Quelle science absolue des proportions! La sensation du style. Par une route obscure, la pensée remonte ou redescend jusqu'aux catacombes, jusqu'à la source de ce grand fleuve, l'architecture française. Que le mot puissant prenne ici tout son sens. Cet art est très puissant. Je pense à Rome, à Londres, je pense à Michel-Ange. Des lueurs lointaines rembrunissent, noircissent devant certaines colonnes. Mais le fond du chœur et toute la partie gauche de la nef sont plongés dans des ténèbres épaisses. Des lumières flambent entre les colonnes qui prennent des proportions colossales. Et les interruptions, ces conflits de clarté et d'ombre, puis la nuit où je baigne et qui submerge tout, me font douter du temps et des pays. Il n'y a pas de douceur. J'ai la sensation d'être dans un antre immense d'où va se lever Apollon. Je reste bien longtemps sans pouvoir définir l'horrible vision. Je ne reconnais plus ma religion, ma cathédrale. C'est l'horreur des mystères antiques. Il faut que j'échappe à l'oppression de cet effet qui se referme. Un guide me prend la main et je me déplace dans cette nuit qui monte jusqu'à la voûte. De la lumière au-delà des cinq colonnes, j'avance. Forêt magique. Les lueurs qui traversent horizontalement les balustrades y mènent des rondes infernales. Le jour, on est au ciel, ici, et la nuit, en enfer. Nous sommes descendus aux enfers comme Dante. Il y a comme un éclairage de torche, mais cette lueur, bien que terrible, révèle pourtant le chef-d'œuvre. La cathédrale prend un caractère assyrien. L'Égypte est vaincue, car cette cathédrale est plus poignante que la pyramide. Le mystère est dans l'inconnu de ce spectacle. On y a l'idée de la forêt, de la grotte. La masse effroyable de la nuit, un instant repoussée, faiblement, reprend aussitôt l'empire avec une irrésistible violence. Mon esprit dispersé ne perçoit que des épouvantes. Il voit se répéter des jambages effrayants dans cette forêt que l'homme a créée pour son Dieu. Est-elle moins belle que la forêt véritable, animée de moins de pensées, peuplée de moins de larves atroces et de moins d'esprits? Et vous, gargouille, n'êtes-vous pas sorti du cerveau des sculpteurs, revenu dans la cathédrale après le coucher du soleil pour y prendre le conseil de la nuit et y rechercher le souvenir de quelque horrible rêve? Ô nuit, tu es plus grande ici que partout ailleurs. Des éclairages incomplets découpent le monument en tronçons et ces lueurs me disent les frémissements d'orgueil des titans qui ont édifié la cathédrale. Priaient-ils ou créaient-ils? Ô génie de l'homme, je t'implore, reste avec nous, Dieu des reflets. Remontons aux origines païennes des cathédrales. Au début du 19e siècle, un écrivain et homme politique fascine le jeune Victor Hugo qui déclarait « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est en 1802, année de naissance de Hugo, que François-René de Chateaubriand publie son célèbre essai « Le génie du christianisme ». L'écrivain y décrit comme Rodin le lien entre l'architecture gothique et les forêts antiques. Les forêts ont été les premiers temples de la divinité. Et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture. Cet art a donc dû varier selon les climats. Les Grecs ont tourné l'élégante colonne corinthienne avec son chapiteau de feuilles sur le modèle du palmier. Les énormes piliers du vieux style égyptien représentent le vaste sycomore, le figuier oriental, le bananier et la plupart des arbres gigantesques de l'Afrique et de l'Asie. Les forêts des Gaules ont passé à leur tour dans les temples de nos pères, et ces fameux bois de chêne ont ainsi maintenu leur origine sacrée. Ces voûtes ciselées en feuillage, ces jambages qui appuient les murs et finissent brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les chapelles comme des grottes, les passages secrets, les portes abaissées, tout retrace les labyrinthes des bois dans l'église gothique, tout en fait sentir la religieuse horreur, les mystères et la divinité. L'architecte chrétien, non content de bâtir des forêts, a voulu, pour ainsi dire, en conserver les murmures. Et au moyen de l'orgue et du bronze suspendu, il a attaché au temple gothique jusqu'au bruit des vents et des tonnerres qui roulent dans la profondeur des bois. Les siècles évoqués par ces bruits religieux font sortir leurs antiques voix du sein des pierres et soupirent dans tous les coins de la vaste basilique. Le sanctuaire mugit comme l'antre de l'ancienne Sibylle, et tandis que d'énormes airains se balancent avec fracas sur votre tête, les souverains voûtés de la mort se taisent profondément sous vos pieds. Partons pour Chartres, où à la fin du 19e siècle, un romancier évoque à son tour l'inspiration orientale des cathédrales. Il s'agit de Carl Joris Huysmans, figure emblématique de la littérature fin de siècle. Après une période décadente, l'auteur recouvre la foi religieuse. En 1898, il publie « La cathédrale », et l'on retrouve l'image d'une femme agenouillée, tendant les bras au ciel. Mais Durtal n'écoutait plus l'abbé. Loin de toute exégèse, il admirait, sans même chercher à l'analyser, l'étonnante église. Dans le mystère de son ombre brouillée par la fumée des pluies, les colonnes filaient en de minces faisceaux, en de fines gerbes, si frêles qu'on s'attendait à les voir plier au moindre souffle. Et ce n'était qu'à des hauteurs vertigineuses que ces tiges se courbaient, se rejoignaient, lancées d'un bout de la cathédrale à l'autre, au-dessus du vide. Cette basilique, elle était le suprême effort de la matière cherchant à s'alléger. Elle se spiritualisait, se faisait toute prière. Elle était l'expression la plus magnifique de la beauté qui s'évade de sa gangue terrestre, de la beauté qui se séraphise. Elle stupéfiait avec l'essor éperdu de ses voûtes et la folle splendeur de ses vitres. Le temps était couvert et cependant toute une fournaise de pierreries brûlait dans les lames des ogives, dans les sphères embrasées des roses. Là-haut, dans l'espace, tels que les salamandres, des personnages humains avec des visages en unition et des robes en braise vivaient dans un firmament de feu. La lalie des rouges, la sécurité limpide des blancs, l'alléluia répété des jaunes, la gloire virginale des bleus, tout flamboyait dans les verrières. Quelques années plus tard, un autre écrivain fait l'éloge du sentiment sacré qui relie la nature et les églises. Nous sommes en 1912 dans la Beauce. Père d'un enfant malade guéri miraculeusement, le poète Charles Péguy fait un pèlerinage à pied jusqu'à la cathédrale de Chartres en compagnie d'un ami, Alain Fournier, qui publiera Le Grand Maulne l'année suivante. En chemin, Péguy admire le paysage sur lequel se détache la tour de la cathédrale. Un an plus tard, Péguy et Alain Fournier meurent tous les deux sur le champ de bataille en septembre 1914. Voici le poème « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres » inspiré de ce voyage. Étoile de la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle de l'océan des blés et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici notre regard sur cette immense chape et voici votre voix sur cette lourde plaine et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés et notre lassitude et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de votre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon, à peine quelques toits font comme un archipel, du vieux clocher retombe une sorte d'appel, l'épaisse église semble une basse maison. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale, de loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de château sur la barque amirale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Mais 20 siècles de peuples et 20 siècles de rois ont appris ce que c'est que d'être familier et comme on peut marcher les pieds dans ses souliers vers un dernier carré le soir d'une bataille. Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate et nous avons connu dès nos premiers regrets ce que peut receler de désespoir secret un soleil qui descend dans un ciel écarlate et qui se couche au ras d'un sol inévitable, dur comme une justice, égale comme une barre, juste comme une loi, fermée comme une mare, ouvert comme un beau socle et plan comme une table. Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement vers votre assomption la flèche unique au monde, Tour de David, voici votre tour, Beauceronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité et le plus beau fleuron dedans votre couronne. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Restons en compagnie de Charles Péguy. Dans son roman intitulé « L'argent », publié en 1913, l'écrivain rend hommage aux bâtisseurs de cathédrales. Il salue leur sens du sacré. En somme, c'est toujours du Hugo. Et c'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir. Les ouvriers allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même et la racine profonde de leur être et la raison de leur être. Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs. Ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait, c'était entendu. C'était un prima. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue monter du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Revenons une dernière fois sur cette période exaltée de la vie de Charles Péguy. Voici le récit que le poète fait de son expérience mystique dans une lettre à son meilleur ami Joseph Lott, le 27 septembre 1912. « Mon vieux, je suis un homme nouveau. J'ai tant souffert et tant prié, tu ne peux pas savoir. Je vis sans sacrement. C'est une gageure, mais j'ai une surabondance de grâce inconcevable. J'ai fait un pèlerinage à Chartres, 144 kilomètres en 3 jours. Ah, les croisades, c'était facile. Il est évident que nous aurions été les premiers à partir pour Jérusalem et que nous serions morts sur les routes. Mourir dans un fossé, ce n'est rien vraiment. J'ai senti que ce n'était rien. On voit le clocher de Chartres à 17 kilomètres sur la plaine. Dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'ai prié 1 heure dans la cathédrale. Je n'ai pas assisté à la grand-messe. J'avais peur de la foule. J'ai prié, mon vieux, comme jamais je n'ai prié. J'ai prié pour mes ennemis. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis un pécheur, un bon pécheur. Je ne suis pas un saint. La sainteté, ça se reconnaît tout de suite. Je suis un pécheur, mais qui a un ange gardien étonnant. Le mal au devant duquel j'allais, mon ange gardien l'écartait. Comme les hommes, les cathédrales prennent part à la grande histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Notre-Dame de Paris devient le symbole de la victoire. Elle protège miraculeusement le général de Gaulle d'une tentative d'assassinat. Voici une archive du 26 août 1944.
Écoutez, ce sont des cloches.
Ouais. Les cloches.
Mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame.
C'est le bourdon de Notre-Dame, c'est le bourdon de Notre-Dame. Mais alors? Ah mais oui.
Alors si les cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. On applaudit, ce sont donc les cloches de la libération.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur cinquième colonne ont repris le feu au cours de la cérémonie.
Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France, qui a vu tant de tédiums de gloire se dérouler, entre autres celui de 1914-1918, où elle a reçu le général Foch, qui était victorieux comme l'est aujourd'hui le général de Gaulle, et qui rentre en vainqueur, en libérateur, dans Paris, capitale de la France, et dans Notre-Dame, cathédrale de France.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Restons à Paris, où un grand dramaturge célèbre à son tour Notre-Dame. À la fin de sa vie, Paul Claudel rend hommage à la Vierge Marie dans un célèbre poème « La Vierge à midi », extrait du recueil « Poèmes de guerre » paru 2 ans après sa mort en 1957. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regarder votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier, dans son épanouissement final. Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Андрей Тарковский.
То есть до тех пор, пока будет существовать человек,
aussi longtemps que l'homme existera,
человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création.
До тех пор, пока он будет ощущать, человек будет ощущать себя человеком, он будет
стараться создать что-то.
Но ясно одно, что искусство — это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Et при помощи искусства человек выражает свою надежду.
À travers l'art, l'homme exprime son espoir.
И все остальное не имеет никакого значения.
Et le reste n'a aucune importance.
Nous approchons de la fin de l'émission. En ce samedi de Pâques, écoutons le récit d'une résurrection par l'amour. Partons pour la Russie, en compagnie de Dostoïevski et de Raskolnikov, le héros de Crime et Châtiment, publié en 1866. À la fin du roman, le jeune homme a avoué son meurtre et a été condamné au bagne. Sonia, une jeune prostituée dont il est tombé amoureux, l'accompagne en Sibérie pour expier ses propres fautes. Voici l'une des dernières pages du récit. Nous sommes en avril, après la Semaine Sainte. Après avoir été malade et hospitalisé, Raskolnikov retrouve le chemin des travaux forcés. Soucieux, il apprend que Sonia a elle-même été souffrante pendant son absence. La journée à nouveau fut tiède et claire. Tôt le matin, vers 6 heures, il partit au travail au bord de la rivière. Raskolnikov restait assis. Il regardait, immobile, sans s'arrêter. Il ne pensait à rien. Mais une espèce d'angoisse le bouleversait et le rongeait. Soudain, Sonia parut près de lui. Elle s'était approchée à pas muets et vint s'asseoir à ses côtés. Il était encore très tôt, le petit vent froid du matin ne s'était pas encore adouci. Elle portait un vieux et pauvre burnous, un foulard vert. Son visage portait encore des traces de maladie. Il était maigre, pâle, creusé. Elle lui fit un sourire amical et heureux, mais comme à son habitude, elle lui tendit la main avec timidité. C'est toujours avec timidité qu'elle lui tendait la main. Lui, il la prenait toujours sa main avec une sorte de répulsion, restait parfois obstinément muet tout le temps de sa visite. Parfois, elle tremblait devant lui et s'en allait emplie d'un deuil profond. Mais cette fois, leurs mains ne s'étaient pas séparées. Il ne savait pas comment cela était arrivé, mais brusquement, ce fut comme si quelque chose le saisit et venait le jeter aux pieds de Sonia. Il pleurait et lui embrassait les genoux. Le premier instant, elle eut une peur terrible, tout son visage se figea. Elle bondit et toute tremblante, elle le fixa des yeux. Pourtant, à l'instant même, à la seconde, elle comprit. Un bonheur infini s'illumina dans son regard. Elle avait compris, et il n'y avait plus de doute dans son esprit qu'il l'aimait à l'infini, et que cet instant-là était enfin venu. Ils voulurent parler, ils en furent incapables. Des larmes leur embrumaient les yeux, ils étaient tous les deux pâles et maigres, mais ces visages malades et pâles étaient déjà illuminés par l'aube d'un avenir renouvelé, d'une résurrection complète à une vie nouvelle. L'amour les avait ressuscités. Le cœur de l'un contenait pour l'autre des sources de vie infinies. Ils décidèrent d'attendre et de prendre patience. Il leur restait encore 7 ans. D'ici là, que de douleurs insupportables et d'infini bonheur. Mais il était ressuscité, il le savait, il sentait cela de tout son être renouvelé, et elle, elle ne vivait que de sa vie à lui.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240? C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris? C'est toujours Notre-Dame. Toutes les routes de France partent du parvis de Notre-Dame.
Kilomètre zéro.
Oui, kilomètre zéro. Mais disons aussi que tout y aboutisse. Et que ce point de départ peut être un point de ralliement. Et même encore, un point final.
Ça peut pas faire de mal.
C'était Sacha Guitry, extrait du film « Si Paris nous était compté » en 1956. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Pierre-Henri, Julien Douminc et toute l'équipe de la régie générale du studio 104. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Merci à vous, auditeurs et spectateurs du Studio 104, pour votre soutien à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous pouvez faire vos dons sur les sites officiels, je le rappelle, www.don.fondation-patrimoine.org. Bon week-end de Pâques.